11h30 en temps universel, il est 13h30 ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
Une demi-heure consacrée à l'actualité européenne donc. Et puis à midi, votre journal, Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour Anne Contner.
On reviendra évidemment sur l'actualité en Ukraine et sur ce coup de pression de l'administration Trump. Et puis vous nous parlerez aussi de la tension qui monte entre l'Inde et le Pakistan.
Oui, frontières fermées par Islamabad, expulsion de diplomates indiens et interruption de commerce avec l'Inde. La réponse à New Delhi qui demandait un peu plus tôt aux Pakistanais de quitter son territoire. Nous retrouverons ensuite Amira Swilem à Jérusalem à l'occasion de la journée de la Shoah en mémoire aux 6 millions de victimes juives des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Valot du Vatican sera avec les fidèles qui rendent un dernier hommage au pape François. Sa dépouille est à la basilique Saint-Pierre où plus de 20 000 personnes sont venues depuis hier. Emmanuel Macron termine lui son déplacement à Madagascar. Le chef de l'État appelle à intégrer Mayotte dans la commission de l'océan Indien. C'est ce que nous dira Valérie Gasse qui était avec le président. Un nouveau rebondissement sur la scène politique sud-coréenne. L'ex-président Moon Jae-in a été inculpé pour corruption au moment où l'ancien président Yoon Seok-yeol est jugé pour insurrection. Avec cette inculpation, deux anciens présidents sud-coréens sont donc à présent simultanément dans le collimateur de la justice. On terminera par cette histoire d'arnaque de faux billets pour le prochain grand concert du groupe Oasis qui s'est reformé après 15 ans. 5000 fans se sont fait avoir par une vaste escroquerie pour un montant estimé à plus de 2 millions d'euros.
A tout à l'heure Olivier, dans un moment d'une demi-heure maintenant.
RFI Midi, l'Europe à midi.
L'Ukraine à la une de l'actualité en Europe. L'Ukraine bombardée de nouveau la nuit dernière par des dizaines de missiles et de drones, selon les autorités, qui déplorent au moins 8 morts et une soixantaine de blessés. Volodymyr Zelensky dit ce matin écourter sa visite en Afrique du Sud pour rentrer dans son pays après ses frappes. Cette nouvelle attaque russe, elle intervient après un coup de pression de la part de Donald Trump, le président américain répétant que Kiev et Moscou doivent trouver rapidement un accord, faute de quoi les États-Unis cesseront de jouer les médiateurs. Problème pour l'Ukraine, le plan élaboré par l'administration Trump contient un certain nombre de points considérés comme des lignes rouges. La reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie, par exemple, et ce, sans garantie occidentale. Cerise Sudri-Ledus l'a fait réagir, le président Zelensky.
Le tweet publié en début de soirée est mesuré. À la suite de la réunion à Londres avec les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, Volodymyr Zelensky se félicite que la diplomatie soit déclenchée. Mais il a joint à son tweet une déclaration faite par les États-Unis en 2018, au temps du premier mandat de Donald Trump, indiquant que les États-Unis n'accepteraient pas l'annexion de la Crimée par Moscou. Une réponse à ces dernières 48 heures pendant lesquelles Donald Trump et ses proches accusaient l'Ukraine de ne pas jouer le jeu et de ne pas vouloir la paix en indiquant refuser reconnaître l'annexion de la Crimée, disant que celle-ci était perdue depuis de nombreuses années. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky répète régulièrement sa position, pas question d'entamer des discussions avec la Russie sans cessez-le-feu préalable, mais depuis la fin de l'éphémère cessez-le-feu de Pâques il y a quelques jours, plusieurs attaques meurtrières ont eu lieu dans le pays, dont celle de cette nuit sur la capitale. 5 districts ont été touchés et des bâtiments résidentiels endommagés. Cerise Sudri-Ledu, Kyiv, RFI.
Et après ces nouveaux bombardements russes, Moscou affirme avoir visé l'industrie militaire ukrainienne. Et surtout, la Russie enfonce le clou sur la question de la Crimée, reprenant les termes de Donald Trump. Pour le Kremlin, cette région est perdue pour l'Ukraine. La Crimée, ça n'est pas seulement une question de principe pour Kiev. Cette péninsule représente un enjeu important dans la région, comme l'explique Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
La Crimée, c'est la péninsule qui permet le contrôle stratégique d'à peu près toute la zone de la mer Noire qui est placée sur tous les grands itinéraires de transit maritime et de transit aérien. Qui contrôle la Crimée contrôle la mer Noire. Et c'est pour ça que pour la Russie et pour l'Ukraine, la maîtrise de la Crimée, le rétablissement de la souveraineté ukrainienne sur la Crimée est stratégiquement aussi importante.
Cyril Brett, associé à l'Institut Jacques Delors pour l'Union européenne, c'est bien la Russie qui est aujourd'hui un obstacle à la paix. Par ailleurs, on apprend qu'un général russe qui avait été retiré du terrain en Ukraine a été condamné à 5 ans de prison pour fraude et pour falsification de documents. Il a aussi été déchu de son grade militaire. Ivan Popov se dit, lui, victime d'une purge. en raison des critiques émises sur la manière dont est géré le conflit en Ukraine. C'est une question qui est liée à cette guerre. L'énergie est au cœur d'un sommet international organisé à Londres. L'enjeu, c'est la sécurité énergétique. Le conflit dont nous parlions à l'instant avait déjà pesé sur les marchés, sur les entreprises et sur les échanges mondiaux dans les secteurs du gaz, du pétrole, de l'électricité. Et depuis quelques semaines, les mesures commerciales de Donald Trump ajoutent à la confusion générale. D'où cette question, Agnieszka Kumor, comment renforcer la sécurité énergétique ?
C'est toute la question justement autour de laquelle se réunissent des ministres européens de l'énergie, de hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprises ainsi que des experts. Avec la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et avec la guerre en Ukraine, l'Europe a découvert sa vulnérabilité stratégique. Des doutes demeurent par ailleurs sur la place réservée à la transition énergétique. Une énergie fiable, abordable et durable, c'est ce que devrait défendre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de ce sommet de Londres. L'Europe ambitionne de devenir un acteur indépendant sur la scène mondiale et à pourvoir à sa propre sécurité énergétique, et ce en passant par la décarbonisation et l'électrification de l'économie. Mais comment faire? Où trouver des alliés? Là-dessus, les États membres ne sont pas d'accord.
L'Europe doit notamment déterminer dans les prochains jours un calendrier de sortie du gaz russe, avec probablement l'interdiction du gaz naturel liquéfié d'ici à 2027.
Oui, environ la moitié des États membres de l'UE soutiennent l'interdiction des importations de GNL russe dès maintenant. Mais ils ont du mal à convaincre les autres. C'est la raison pour laquelle l'UE n'a pas inclus l'interdiction du GNL russe dans le prochain paquet de ses sanctions contre Moscou. Selon Reuters, la Commission hésiterait à se priver tout de suite du GNL russe, craignant de ne plus avoir de marge de manœuvre dans les négociations avec les États-Unis sur les droits de douane. Eh bien, Washington encourage en effet l'Europe à acheter davantage de GNL américain, mais selon Bercy, les prises de position de l'administration Trump en faveur d'une augmentation des achats de GNL américains par l'Europe en échange d'un effort commercial ne se sont pas encore concrétisées.
Certaines organisations craignent que ce sommet de Londres ne soit en fin de compte qu'un paravent pour encourager les entreprises à produire plus d'énergie fossile et en retarder la sortie.
C'est effectivement le danger. L'AIE tentera sans doute de ne pas froisser Donald Trump et de calmer le jeu avec l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole, qui ont qualifié la sortie des énergies fossiles de fantasme. Ménager la chèvre et le chou, c'est l'objectif de l'AIE, qui tient à rester une référence en matière de la sécurité énergétique.
Agnieszka Kumor.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Les fidèles catholiques sont encore très nombreux à attendre des heures et des heures pour pouvoir se recueillir quelques instants devant la dépouille du pape François. Il repose jusqu'à demain soir dans la basilique Saint-Pierre à Rome et plus de 50 000 personnes se sont déjà recueillies devant le cercueil. Parmi elles, le père Hermel Tonato, prêtre béninois en mission en Suisse et qui se trouvait à Rome au moment du décès du pape.
Je viens de me recueillir devant la dépouille du pape. C'est un moment de silence, de recueillement et surtout de prière pour que le Seigneur accueille l'âme de notre cher Saint-Père qui s'en est allé vers le Père. Alors, voyez le monde qui est là, qui passe, qui est impatient des fils de 6 heures, 7 heures, 10 heures, d'attendre juste pour un petit passage d'une minute, même de quelques secondes. Je pense que cela va, le coup, cela est l'expression de la foi qui anime ceux qui sont là et qui accompagnent le Saint-Père dans son passage vers le Père Céleste. À l'intérieur, il y a une longue file qui est au milieu. Ensuite, il y a certains qui peuvent aller près du cercueil comme moi. On peut prier quelques minutes là, se recueillir. Et puis après, il y a la foule qui attend et puis on ne traîne pas. Ça passe tellement si vite, mais c'est tellement bien organisé qu'il n'y a pas de bousculade, rien du tout. Tout se passe dans l'ordre.
Le père Hermel Tonato, comme lui, des dizaines de milliers de fidèles sont encore attendus d'ici à demain soir. Puis les obsèques du pape François seront célébrées samedi matin en présence de nombreux dirigeants du monde entier.
Anne Contner.
Notre coup d'œil quotidien à la presse européenne en Espagne, El País nous apprend que le Premier ministre ordonne au ministère de l'Intérieur de rectifier le tir et de résilier unilatéralement un contrat d'achat de munitions à Israël. Contrat de plus de 6 millions d'euros qui faisait débat au sein de la coalition gouvernementale. Pedro Sanchez cherche ainsi à ménager ses alliés politiques. Et puis en Bosnie, la police a tenté d'arrêter hier le chef de l'entité autonome serbe, Milorad Dodik, condamné récemment à 1 an de prison pour non-respect de l'accord qui avait mis fin à la guerre dans les années 90, non-respect de la justice aussi. Mais lorsque la police fédérale est arrivée, des membres de l'entité serbe s'y sont opposés par la force, rapporte le quotidien de Sarajevo Libération, ajoutant que toutes les personnes impliquées ont été arrêtées et conduites devant la justice. Et puis selon le journal Dnevni Avaz, toujours en Bosnie, Milorad Dodik a repris ses activités officielles ce matin en allant inaugurer le rectorat à l'est de Sarajevo.
RFI Midi.
La question se pose dans tous les pays européens, dans tous les pays du monde même, à l'heure des réseaux sociaux globalisés et des discours de défiance à l'égard des médias, véhiculés même parfois par des dirigeants populistes. Comment lutter contre la désinformation ? Eh bien, grâce à la radio notamment. Alors, bien sûr, vous pouvez écouter RFI, c'est recommandé, mais bien écouter les infos, ça s'apprend. Et c'est toute l'ambition du réseau European School Radio en Grèce, qui vient tout juste d'organiser un festival destiné aux enfants et aux adolescents du continent européen. Notre correspondant Joël Bronner a rencontré les participants.
Nous sommes dans la petite ville côtière de Neos Marmaras, dans le nord de la Grèce, à une centaine de kilomètres au sud de Thessalonique, la capitale régionale de la Macédoine. L'événement, cette mi-avril, c'est la soirée d'ouverture d'un festival radiophonique destiné aux jeunes, qui regroupe près d'un millier de participants au total. Président de la European School Radio, hébergé dans les locaux de l'Université internationale de Thessalonique, Evtichia Touliou est aussi à la tête de l'organisation du festival, dont c'est la 9e édition.
Personnellement, j'ai étudié la pédagogie et je suis une amoureuse de la radio. Mon objectif a donc été de combiner les deux. Il y a quelques années, quand j'enseignais à l'école primaire et que j'utilisais la radio, je voyais que les enfants étaient motivés. Ils formaient eux-mêmes leur équipe. Ils s'attribuaient des rôles en désignant un rédacteur en chef, un ingénieur du son, etc. Au final, ce travail d'équipe permet aux enfants d'apprendre plein de choses, notamment en termes de communication et de coopération.
Parmi les participants, un groupe de jeunes français, allemands et grecs, notamment venus réaliser un podcast pour documenter, comme des apprentis journalistes, leur passage au festival. Un projet baptisé Kids Radio Europe. Casque sur les oreilles et enregistreur à la main, Jade, 16 ans, profite d'une excursion dans la forêt pour se fondre dans le rôle de reporter et capturer tour à tour les impressions de ses camarades festivaliers et l'atmosphère sonore environnante.
Je suis en train d'enregistrer, là j'écoute ce que j'ai enregistré, mais j'étais en train d'enregistrer des sons, un peu pour habiller le podcast qu'on va faire. Donc là, on est en train de faire une petite randonnée. Donc on est vraiment entouré de montagnes, de la nature, tout ça. De l'eau, des papillons, des fleurs, c'est super apaisant. Ouais.
Dans son quotidien, face à la multitude d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l'adolescente venue de la région nîmoise se dit méfiante.
Quand j'entends ma sœur en parler qu'il y a eu ce qui s'est passé, ça ou ça sur TikTok, j'ai tendance à aller sur Internet voir si c'est réel ou pas. Et puis après, j'avise selon ce que je vois. C'est plus fiable quand ça vient de médias officiels pour moi, parce qu'il y a des gens derrière qui ont revérifié l'info.
Ses jeunes collègues grecs, Johanna, 16 ans, et Anna, 15 ans, elles aussi journalistes en herbe, affirment également pratiquer la culture du doute.
Pour l'actualité, je m'informe bien sûr un peu via la télévision, mais surtout via Internet. Je consulte plusieurs sites pour être sûre que les informations soient fiables. Quand les journalistes grecs exagèrent, je veux dire quand ils en font des tonnes, je ne leur fais pas confiance.
C'est principalement à la télé que je suis les informations. Et ici, à la télévision, je trouve que les journalistes exagèrent beaucoup. Ils rendent les sujets beaucoup trop dramatiques. Ça peut pousser les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies. Et je pense que ça va être encore pire dans le futur avec l'intelligence artificielle. Nous, les jeunes, on l'utilise, mais elle peut aussi contenir de fausses informations.
D'où l'intérêt pour leurs encadrants d'initier enfants et adolescents à l'univers de l'information. Mirto Stamelaki dirige ce projet européen d'éducation aux médias au sein de l'association Les Francas. Elle en résume la mission éducative.
Comprendre comment ça fonctionne le monde des médias, comment on peut aller chercher une information, vérifier une source. Notre objectif principal, c'est développer l'esprit critique.
Esprit critique, oui, mais l'initiation aux médias et à l'outil radio passe aussi par la dimension ludique. Ici, Laura, 12 ans, informe ses auditeurs des péripéties du séjour via un carnet de voyage.
Nous sommes jeudi 10 avril et il est 8h53. Un drame vient de se produire juste devant l'hôtel. Laetitia a découvert que la machine à café ne marchait plus.
Documenter le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit, voilà peut-être pour ces collégiens et lycéens européens l'une des leçons de ce festival radiophonique. Quitte à décrire un monde confronté à des réalités difficiles, comme le manque de caféine.
Reportage de notre correspondant Joël Brunner à réécouter ce soir à 17h10 temps universel.
RFI Midi.
Pour l'heure, il est 12h46 à Londres où l'on retrouve notre correspondante Sidonie Gaucher. Sidonie, on le dit régulièrement ici, le quotidien coûte de plus en plus cher en Europe depuis quelques années. Et ça a une conséquence inattendue au Royaume-Uni. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à abandonner leurs animaux de compagnie.
Et oui, c'est une réalité de plus en plus visible malheureusement au Royaume-Uni. Depuis plusieurs mois, les refuges pour animaux tirent la sonnette d'alarme. Ce ne sont plus seulement des cas isolés, mais une véritable vague d'abandon qui touche tout le pays. À l'origine de cette situation, la pression économique qui s'intensifie mois après mois. Car depuis la fin de la pandémie, le coût de la vie a explosé. En octobre 2022, l'inflation a dépassé les 11%, un niveau historique. Alors depuis, beaucoup de foyers n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs animaux. Nourriture, soins vétérinaires, accessoires, tout coûte plus cher. Résultat, les animaux sont abandonnés. Depuis le début de 2025, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux a recensé plus de 5700 abandons. C'est 32% de plus qu'à la même période l'an dernier. Et malheureusement, ce phénomène s'inscrit dans la durée. En 2024, 22 500 abandons avaient déjà été signalés, soit une hausse de 7% par rapport à 2023.
Cela signifie qu'on voit de plus en plus de chatons abandonnés dans des boîtes, des perruches laissées à l'extérieur en pleine nuit. Et les refuges, eux, sont débordés. Ça parce que des propriétaires, il faut le dire, abandonnent leurs animaux malgré eux.
Mais oui, c'est exactement ça. Il y a une réelle détresse chez ceux qui poussent la porte des refuges. Elvira Mutsi-Lyons, qui dirige le refuge Mayu à Londres, raconte que les gens arrivent tristes, honteux, ils sont frustrés. Et pour beaucoup, la situation est terrible puisqu'il faut choisir entre acheter de la nourriture pour soi-même ou nourrir son animal. Donc, depuis le début de l'année, le refuge a accueilli plus de 130 animaux et ce chiffre grimpe chaque semaine. C'est du jamais vu depuis 25 ans. On retrouve des chiens attachés aux grilles du centre et des lapins abandonnés comme ça dans les parcs. C'est terrible.
Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi le contre-coup de toutes les adoptions d'animaux qu'on avait observées pendant la pandémie de Covid ?
Mais oui, c'est ça, tout à fait, puisque pendant le confinement, beaucoup ont adopté des animaux pour combler le sentiment de solitude. Et une fois que le quotidien est revenu, avec la reprise du travail, les transports, les horaires à rallonge, eh bien certains se sont retrouvés débordés. Et avec la crise économique qui s'est greffée par-dessus, la situation est devenue intenable.
Sidonie Gaucher, en direct de Londres.
RFI Midi.
Un monde de tech.
Dominique Dezonnet, vous nous parlez aujourd'hui d'une découverte fascinante. Des chercheurs de l'université de Berkeley en Californie ont mis au point un dispositif qui a permis à 5 personnes, c'est peu mais quand même, de voir une couleur complètement nouvelle pour l'œil humain. C'est une teinte inédite, jamais observée dans des conditions naturelles et ils l'ont appelée holo.
Oui, les rétines humaines sont composées d'une membrane qui tapisse le fond de nos globes oculaires. Elles sont aussi recouvertes de millions de cellules photosensibles réagissant à la lumière. Les plus nombreuses, qui se nomment les bâtonnets, sont spécialisées plutôt dans la réception lumineuse de basse intensité, permettant ainsi de voir le monde en nuances de gris. Les autres, dénommées les cônes, dont il existe trois types seulement, réagissent aux différentes fréquences du spectre lumineux. Nous trouvons ainsi des cônes sensibles au rouge, d'autres au bleu et des cellules sensibles au vert. L'interaction entre les cônes en mélangeant ces trois couleurs primaires permet de créer toutes les autres teintes, comme nous l'apprenons aux dépens des murs en maternelle grande section. Les signaux électrochimiques de cette combinaison seront alors transmis par les cellules au cerveau qui les interprétera alors en millions de nuances colorées. En revanche, les personnes atteintes de daltonisme, c'est-à-dire de la déficience de la vision des couleurs due à l'absence d'un ou deux de ces cônes, vivront dans un monde monochrome et plutôt tristouné.
Et c'est justement en poursuivant l'objectif d'aider ces personnes que les chercheurs de Berkeley sont parvenus à distinguer une nouvelle couleur.
Effectivement, et pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont manipulé le cône qui est sensible aux ondes du vert en développant un système expérimental complexe qu'ils ont intitulé OSE, en référence directe, précise-t-il, aux lunettes vertes portées par le magicien d'OSE, des binocles colorés qui faussaient d'ailleurs sa perception du monde dans la cité d'Émeraude. Concrètement, le dispositif des chercheurs, qui est piloté par un ordinateur, envoie des micro-impulsions laser ultra-localisées visant exclusivement les cônes sensibles au vert, mais sans jamais exciter les autres cellules. Les 5 chercheurs du laboratoire de Berkeley qui se sont portés volontaires sont devenus ainsi les seuls au monde avoir pu observer cette nouvelle couleur qu'ils ont donc dénommée Holo. Tous les participants la situent entre une teinte de bleu et de vert, mais d'une saturation sans précédent. Ils estiment en revanche manquer d'un vocabulaire adapté pour décrire ce qu'ils ont réellement vu.
Et ces chercheurs affirment que cette nouvelle couleur n'est pas le résultat d'une hallucination visuelle. Ils l'ont bien vue.
Oui, et comme le confirmeraient leurs travaux qui ont été publiés dans la revue Science. Nous ne savions pas si le cerveau était capable d'interpréter cette nouvelle couleur, indique-t-il. Les chercheurs envisagent maintenant de développer un système pour reprogrammer les photorécepteurs de la rétine des personnes atteintes de daltonisme. Ils espèrent aussi pouvoir augmenter artificiellement nos perceptions limitées des couleurs au-delà de la lumière dite visible, avec la possibilité de percevoir l'infrarouge, les ondes Wi-Fi, les rayons X ou encore les ultraviolets, une vision surhumaine en quelque sorte qui deviendrait ainsi infiniment supérieure à celle dont est prétendument doté Superman lui-même.
Tant de perspectives. Merci Dominique Dezonnet.
RFI Midi. RFI à Barcelone. 105.3 FM.
À 82 ans, Paul McCartney fascine toujours, en particulier l'auteur français Hervé Bourris, qui lui consacre une bande dessinée. Un ouvrage de plus consacré exclusivement à Paul, comme est simplement nommé le livre. L'auteur en parle à Sophie Torlotin. Il raconte certains des côtés sombres du guitariste et chanteur, l'après-Beatles et la reconstruction.
When you were young and your heart.
Hervé Bourris, bonjour.
Bonjour.
Paul est le troisième album que vous consacrez aux Beatles. Vous avez une passion pour ce groupe.
Oui. Là, effectivement, je me focalise sur un seul des quatre, celui qui me semble le plus solaire.
Paul McCartney, donc, ouais. Et pas à n'importe quelle période, 1969-1973, la fin des Beatles et ses débuts de carrière en solo ou avec le groupe des Wings.
Oui, parce que c'est une période qui n'est pas si connue. Il y a plein d'anecdotes super drôles. Et je voulais qu'on assiste à la séparation des Beatles, donc juste après cette période de Get Back. Donc je voulais que ce soit le point de départ de cette histoire. Et la dépression qui a suivi chez Paul McCartney après cette séparation.
Et dans cette bande dessinée, Hervé Bourris, c'est Paul qui raconte à la première personne, oui. Et aussi Linda, oui. Sa femme, photographe américaine.
Oui, c'était important pour qu'on se rapproche de lui, en fait, hein, tout simplement. En fait, c'est assez logique parce qu'il l'a raconté, lui, plusieurs fois dans des livres. Il racontait qu'à cette période-là, effectivement, il commençait au whisky dès le matin, quoi. Il a vraiment fait une dépression et il s'en est sorti grâce à Linda. C'est aussi pour ça qu'elle est super importante dans cette histoire. elle l'a sauvée, quoi, tout simplement.
Elle était comme Yoko Ono, mais pour des raisons différentes. Linda McCartney a été très attaquée aussi par les fans.
Oui, parce que c'est les années 70, et donc on la considérait comme une femme au foyer, qui s'occupait de ses enfants. Mais ils étaient ringards tous les deux hein, dans les années 70. Paul aussi, parce qu'il s'occupait de sa maison, il élevait des moutons, et c'était pas du tout rock, quoi. Et Paul avait une vie qui est bizarrement plus moderne aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant. Never seeing no
Paul McCartney, donc il fonde un groupe avec sa femme. Elle n'est pas du tout musicienne, non. Linda McCartney, il la met au clavier, elle connaît rien.
Ça devait pas être simple. Paul, il a jamais voulu que les Beatles arrêtent les concerts. Ils ont arrêté les concerts en 66. Donc le premier truc, dès quand il y a eu la séparation et qu'il est sorti de sa dépression lourde, ça a été d'immédiatement reprendre les concerts, mais de façon très humble. Donc on loue un van, on engage des musiciens pas très connus, et c'est parti. Alors on est en février 71, ils sont dans un van, et ils vont avec tous les instruments, et les enfants, et les chiens, et ils vont faire la tournée des campus, mais sans les prévenir.
Donc les campus, les universités.
Universités. Donc c'était complètement improvisé, complètement fou.
Hervé Bourris, on découvre que Paul McCartney et le groupe, hein, les Wings, ont enregistré un album à Lagos et ont rencontré Fela.
Oui, c'est une drôle d'histoire. En fait, ils voulaient changer un petit peu des studios londoniens. Ils se sont dit, ah, on va aller en Afrique, là, il y a un studio EMI à Lagos. Sauf que Fela, qui est donc le patron de Lagos, a entendu parler de cet anglais qui venait enregistrer et n'était pas content. Et il a considéré qu'il venait voler la musique africaine. Fela a été voir Paul en studio avec ses copains armés. Ils ont discuté, c'était très tendu. Mais Paul, c'est un gars de la rue aussi, de Liverpool, donc il sait pas... Je pense qu'il a flippé, mais il l'a pas trop montré. Et ils ont écouté les bandes, et Fela était content, et il a considéré qu'effectivement, ils n'avaient pas du tout volé la musique africaine, et qu'ils sont devenus copains. Et Paul raconte souvent qu'il a vu ce concert au club de Fela, qui s'appelle Africa Shine, où c'était un concert de 4 heures complètement dingue, et qu'il a pleuré tellement c'était beau. Ouais.
Hervé Bourris, merci.
Merci à vous.
Hervé Bourris, au micro de Sophie Torlotin. Hervé Bourris qui consacre une bande dessinée à Paul McCartney. Qui met tout le monde de bonne humeur. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
On vous retrouvera dans un peu plus d'une demi-heure pour Afrique Midi, comme tous les jours, et vous nous parlerez tout à l'heure
d'Emmanuel Macron et d'Azalie Assoumani, pardon, qui affichent leur désaccord à la commission de l'océan Indien. Le président français plaidait ce matin l'intégration de l'île de Mayotte dans cette organisation. Pas question pour son homologue comorien. Et puis au Bénin, le gouvernement a annoncé que les attaques du 17 avril contre deux positions de l'armée dans la zone du point triple et dans le parc W ont fait 54 morts, un bilan sans précédent depuis que le pays est confronté aux actions du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda.
A tout à l'heure Nicolas, on vous retrouve à 12h30, temps universel. D'ici là, dans 3 minutes, il y aura un nouveau journal, l'actualité internationale sur RFI. Et d'ici là, de la musique. Negro avec Hassan Boup. Voici le titre choisi par les programmateurs musicaux d'RFI Mundoke.
I'll carry you.
Del Cato Negro avec Hassan Boub. C'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes maintenant pour le journal. À tout de suite.